Je dirais qu'on a la chance extraordinaire d'avoir un des plus grands lacs de barrage situé dans un parc naturel régional. On a la chance extraordinaire d'avoir une nature superbe autour. L'écotourisme, c'est de considérer qu'on peut vivre ailleurs qu'en métropole ou que si on vit en métropole, on a absolument besoin de pouvoir se ressourcer, de pouvoir respirer, de pouvoir déconnecter et que la nature et tous les loisirs qui vont autour, tels qu'ils sont organisés ici, sont un endroit pour se poser et voir qu'on peut vivre autrement.
Sandrine, est-ce que vous avez une définition pour...
Oui, c'est aussi, alors pour rejoindre ce que dit Marie-Laure, c'est aussi sensibiliser les visiteurs à tout ce qui a trait à cette nature, justement, pour la préserver, donc par des visites qui expliquent, par des balades sur la faune, la flore, ou des explications sur les insectes, etc. C'est aussi une manière un petit peu d'éduquer, entre guillemets, les gens, de leur apprendre des choses pour respecter tout ce qui nous entoure et pouvoir encore en profiter le plus longtemps possible.
Pourquoi une fête consacrée à l'écotourisme est-elle organisée ce dimanche 28 mai sur l'île de Vassivière ?
Alors en fait, nous avons souhaité nous inscrire dans cette démarche. C'est la troisième édition qui est proposée par le réseau national des stations vertes et en collaboration avec les trois autres stations vertes du territoire, donc Émoutiers, Bujaleuf, Peyrales-Château et le lac de Vassivière. Nous avons décidé de participer sur tout le mois de mai à cette fête de l'écotourisme et plus prestataires, mais aussi les organisateurs, nous avons mis le souhait d'organiser une journée dédiée à l'écotourisme et tout le monde a trouvé naturel de la faire sur l'île Vassivière, qui est un très bel endroit, qui se prête parfaitement à ce genre de manifestation et qui est un point central sur le lac de Vassivière.
C'est pour quel public, cette journée ?
C'est pour tous les publics, comme tout ce qui se passe à Vassivière, depuis les fous fondus de culture avec le centre d'art, en passant par les sportifs émérites, et puis toutes les familles, parce qu'on a prévu beaucoup d'activités familiales avec des jeux pour enfants, avec des promenades en carriole à cheval, des dégustations, des contes, de la musique, tout ce qu'on peut faire et tout ce qui est fait par des gens qui vivent. Parce que le tourisme durable, c'est pas simplement regarder la nature, c'est aussi être en contact avec des gens qui vivent d'une façon différente, qui créent, qui produisent à partir de cette nature. Et donc vous avez depuis les produits alimentaires, plus classiques, mais à la vannerie, en passant par des livres, par des illustrations, par... toutes les choses qui peuvent émerger d'un territoire original et très vivant.
Sandrine évoquait des actions et des événements organisés par le parc naturel régional de Mille Vaches en Limousin,
oui,
et par le lac de Vassivière. Est-ce qu'on peut avoir des exemples d'actions ou d'événements qui ont eu lieu le mois qui vient de passer ?
Oui, alors il y a eu beaucoup de choses, notamment avec la Cité des insectes, par exemple pour comment fabriquer un hôtel insecte. Il y a eu des choses avec Chantal Ballot de Calune par rapport au jardin des simples, donc comment reconnaître les plantes médicinales, à quoi elles servent, etc. etc. Voilà, c'était des animations de ce type. Il faut toujours qu'il y ait une médiation. C'est-à-dire qu'une une visite simple sans médiation a moins d'intérêt que lorsqu'elle est accompagnée par un guide, par un médiateur qui explique comment les insectes vivent à tel endroit, comment faire pour les protéger, à quoi ils servent au jardin, à quoi sert telle plante. Il faut qu'il y ait de la médiation. Et donc le PNR a pu s'associer à ces sorties-là pour qu'il y ait vraiment un échange entre le visiteur et la personne qui propose l'animation.
Comment les deux structures, à savoir le lac de Vassivière et le PNR Mille Vaches, ont travaillé ensemble à ce mois de l'écotourisme et à l'organisation de cette journée de ce dimanche ?
On a des liens très fréquents sur des tas d'actions, puisqu'en fait, le lac de Vassivière, en capacité d'hébergement, doit représenter plus de 25% de la capacité d'hébergement de l'ensemble du parc naturel régional. C'est vraiment un endroit où on concentre beaucoup de touristes. Alors, des touristes qui viennent pour le lac, mais des touristes qui potentiellement peuvent se déplacer tout autour de ce lac et en particulier dans le parc naturel régional. Donc ce sont deux structures de syndicats mixtes et on est en train de travailler dans la nouvelle charte du parc qui est en train de se mettre en place pour avoir une relation institutionnelle plus systématique.
On le disait en début d'émission, ce mois consacré à l'écotourisme et cette fête de l'écotourisme de ce dimanche 28 mai est porté par le réseau national des stations vertes. On va revenir un petit peu plus tard sur ce qu'est une station verte. On trouve 7 stations vertes dans le PNR, à savoir Bujaleuf, Peyrales-Château, Émoutiers, Chambray, Treignac, Mémac et aussi le syndicat mixte de Vassivière. C'est une station verte un peu particulière, le syndicat mixte. Est-ce qu'on peut revenir sur cette particularité ?
La particularité du syndicat mixte, c'est qu'il gère un territoire autour du lac. Et donc ce territoire est à cheval sur 2 départements, la Creuse et la Haute-Vienne, sur 6 communes, sur 3 intercommunalités. Et donc on est à la fois avec une identité propre autour de ce lac et en même temps une résonance extrêmement forte avec tous les territoires autour et toutes les autres stations vertes. Et c'est vrai que le travail du PNR, qui a lui une zone beaucoup plus vaste, c'est bien progressivement d'unifier pour que ce concept de station verte crée une unité et une identité globale de ce centre du Limousin et de ce plateau limousin qui mérite d'avoir cette identité de façon globale. Parce que après c'est plus une dynamique des municipalités plus ou moins forte, mais enfin, structurellement, c'est une station verte par essence, le territoire.
Une station verte par essence, justement, 7 stations vertes sur le territoire du PNR. Sans rentrer dans les détails trop en profondeur, c'est quoi exactement une station verte ?
Alors je vais vous donner la définition de station verte, hein, ce sera aussi simple. Alors une station verte, elle valorise les attraits naturels du territoire, elle partage une vision commune d'un tourisme à la fois authentique et respectueux des caractères locaux, elle développe des initiatives durables en faveur d'une nature respectée et préservée. Elle propose une offre complète d'activités en lien avec un patrimoine naturel, culturel ou historique. Et elle s'engage dans un tourisme de proximité à la fois humain et respectueux du territoire.
Voilà. Comment on fait pour obtenir le label Station Verte ? Est-ce qu'il faut remplir un cahier des charges ?
Alors oui, tout à fait. Il y a un cahier des charges à remplir. Il faut avoir un certain nombre de prestations touristiques, des services également sur son territoire. Il faut avoir un accueil touristique, donc un office de tourisme ou un bureau d'information touristique. Voilà, il y a tout un tas de critères à respecter. Donc pour avoir tous les renseignements, il est possible d'aller sur le site internet www.stationverte.com où tous les documents sont à disposition des communes ou des territoires intéressés.
Mais quand je parlais de station verte par essence, c'est parce qu'il y a vraiment un territoire qui est authentiquement naturel et avec une capacité touristique et tournée vers cette authenticité. Et qu'après, c'est plus un problème de formalisation pour obtenir véritablement le label, alors qu'il y a d'autres territoires qui, au contraire, ont besoin de construire des actions particulières pour avoir ce label. Ici, c'est presque... Pour moi, c'est consubstantiel, si vous voulez, à l'identité.
Ça se fait naturellement. Disons que le territoire se prête naturellement à ce type de label.
Est-ce qu'une fois qu'on a obtenu le label, on peut être l'objet de contrôle ?
Oui, ça peut arriver, mais il y en a très peu. Par contre, voilà, il faut rester dans la continuité. Si d'un seul coup, on perd toutes ses prestations et tous ses services, ça peut être mis en cause. Mais là, il faut vraiment quand même... je pense que c'est très exceptionnel.
Avant de parler directement de l'écotourisme, on va s'intéresser d'abord au tourisme en général. Ça représente quoi le parc naturel régional de Mille Vaches en Limousin et le lac de Vassivière dans le tourisme dans la région Limousin ? On parle souvent du lac de Vassivière comme étant le cœur du Limousin.
Alors, le lac de Vassivière, c'est un peu compliqué les méthodes de comptage, mais enfin c'est grosso modo 200 000 visites par an. Si vous le ramenez à la population 3 000 habitants, si vous voulez, vous avez des ratios très performants en Nouvelle-Aquitaine par rapport à d'autres sites touristiques. Le PNR, j'ai pas les chiffres en mémoire, je sais pas si tu les connais. Et en retombées économiques locales, on évalue à 13 millions d'euros par an de retombées économiques, sachant que Vassivière, enfin, le territoire correspondant à la zone du syndicat, c'est 3 000 habitants, si vous voulez. Donc ça a un impact extrêmement fort sur ce territoire.
Est-ce qu'on peut faire un état des lieux sur la part de tourisme classique, entre guillemets, et le développement de l'écotourisme sur le territoire du lac et du PNR ?
Non, je pense que c'est encore un petit peu tôt. Des outils vont être mis en place et par Station Verte et par le PNR, mais c'est un travail qui est en cours. Donc là, il est encore un petit peu tôt pour faire un point.
Après, c'est compliqué pour faire des catégories de ce genre-là, parce que vous avez des gens qui ne viennent pas en tant qu'écotouristes, mais qui du coup vont avoir des pratiques relevant du tourisme durable qu'ils vont découvrir ici, et d'autres par contre qui sont des gens qui cherchent ce type de tourisme et qui, eux, vont venir directement, comme avec la pâte ou des choses comme ça, pour des randonnées particulières. Donc, on a une double mission qui est à la fois d'éveiller les gens à peut-être une autre façon de faire du tourisme, y compris des gens qui feraient juste un arrêt d'étape, parce qu'on a, toute une série de gens qui cherchent un hébergement juste pour une ou deux nuits, et puis qui reviennent pour plus longtemps, et puis d'autres personnes leur offrir les moyens de construire un tourisme respectueux et valorisant tel qu'ils le recherchent.
D'ailleurs, à partir de quand on a parlé d'écotourisme en France et plus particulièrement ici ?
Alors en France, je ne sais pas exactement. Ici, écotourisme et tourisme durable, on va dire, ça fait 3-4 ans surtout. Surtout depuis que les stations vertes ont créé cette fête. Donc là, c'est la troisième édition. Et puis on est dans un parc naturel régional, donc on est forcément sensibilisé à ce type de tourisme et au tourisme durable en général. Donc ça fait quand même un certain nombre d'années, mais disons que c'est un petit peu plus sur le devant de la scène, c'est plus récent, mais avec le PNR, ça fait déjà quand même quelques années.
Après, il faut se rappeler que le syndicat mixte, il a été créé pour un tourisme social il y a 60 ans, pour faire que les enfants et les salariés des villes puissent revenir, passer des vacances, découvrir la nature et profiter d'espaces naturels et la logique congé payé et découverte de la nature et de la campagne pour des gamins et des villes ou leurs parents. Donc il y a vraiment une identité historique très forte autour de cette valorisation de la nature et de pratiques de vacances beaucoup moins consuméristes que celles qu'on a sur le littoral par exemple.
Marie-Laure, vous parliez du lac de Vassivière comme étant un endroit naturellement tourné vers l'écotourisme et par essence une station verte. C'est quoi les points forts du territoire et peut-être les points faibles ?
Alors, ce qui est très amusant, c'est que le lac de Vassivière est en fait un lac artificiel qui valorise un espace naturel. Et d'ailleurs, on est en train de travailler avec les fédérations de pêche pour voir si on arrive à pousser cette notion de lac naturel jusqu'au bout, c'est-à-dire faire que les poissons s'y reproduisent et y vivent et que ça soit vraiment un endroit où la nature reprenne son activité spontanée et pas simplement ça. Les atouts du lac de Vassivière, c'est d'abord la taille de ce lac, ses découpes avec des criques qui font qu'au lieu d'être un lac de barrage un peu bassine, si vous voulez, comme vous pouvez avoir dans les Alpes, vous avez un espace extrêmement paysager. Ses points faibles, c'est que les infrastructures qui ont été construites ont beaucoup mis l'accent sur le côté balnéaire, c'est-à-dire deux ou trois mois par an, et qu'en fait, ça ne permet pas aux habitants du territoire de vivre et de travailler avec le tourisme. Il faut pouvoir fonctionner toute l'année. Et ensuite, ça ne permet pas non plus, je dirais, d'apprécier tous les enjeux naturels tout au long de l'année. Et le printemps et l'automne sont extraordinaires, et l'hiver est pas mal non plus. Mais par contre, ça suppose qu'on rénove les hébergements, qu'on puisse avoir une isolation qui permette de survivre l'hiver. Il peut faire moins 5, moins 10, moins 15. Mais il y a aussi des enjeux pour développer ce tourisme-là et ce tourisme des petites vacances, des week-ends et, encore une fois, des séjours où on décroche.
Vous parlez d'enjeux. C'est quoi exactement ces enjeux dans le cadre du développement de cet écotourisme pour le lac de Vassivière ?
D'abord, de trouver les moyens pour rénover, encore une fois, ces hébergements, parce que c'est là la clé pour pouvoir faire venir des touristes tout au long de l'année. Et puis, progressivement, à partir du moment où on a les endroits pour héberger les gens, d'organiser des animations et des activités qui vont faire qu'il se passe toujours quelque chose à Vassivière et tout au long de l'année. Mais vous voyez, quelque chose comme les bistrots d'hiver, par exemple, qui sont plutôt conçus pour les habitants, on pourrait très bien imaginer un concept du même genre pour des gens qui viendraient pour des vacances ou des week-ends. Simplement, pour le moment, il n'y a pas le chauffage ad hoc, donc c'est pas possible.
On parle d'écotourisme, donc d'écologie d'un côté, de tourisme de l'autre. Est-ce que la notion de tourisme et de touriste n'est pas devenue péjorative, quelque part, pour certaines personnes ? Est-ce qu'il ne faudrait pas inventer un nouveau mot ? Moi, j'entends des fois le mot de voyagiste.
Je pense que derrière le tourisme, il y a la consommation. Après, c'est plutôt la façon dont les gens consomment du tourisme qu'il faut changer, que ce soit dans leur relation au territoire, aux habitants, aux activités et je dirais... Voilà. Après, je ne suis pas certaine, si vous voulez, que ce tourisme-là attirera tout le monde. Par contre, il y a une population de plus en plus importante qui a envie de pouvoir bénéficier de cette nature protégée et vivante, encore une fois, parce que je pense que c'est pas juste un côté un peu zoologique, c'est aussi une nature vivante avec des gens qui y vivent Et peut-être un des enjeux, si vous voulez, de ce tourisme durable, c'est que ça donne envie à des gens de s'installer, pas simplement de passer.
Est-ce que le raccourci qu'on entend des fois avec les bons touristes d'un côté et les mauvais touristes de l'autre, il est pertinent ?
Je suis pas sûr qu'on soit dans une approche morale. Je crois qu'il y a effectivement un tourisme qui est durable parce qu'il valorise à la fois les territoires sur lesquels il a lieu, qu'il permet des emplois qui ne sont pas des emplois précaires, qu'il permet des échanges entre des populations qui ont des vies différentes et qui permet du coup de créer de la vie. Et puis il y a un tourisme qui est un peu rasia des sauterelles, mais il y a aussi des gens qui gagnent... Enfin, on gagne beaucoup plus d'argent sur les rasia de sauterelles que sur le tourisme durable.
Alors les personnes qui vont en vacances partent en vacances pour oublier les tracas du quotidien, pour se changer les idées. Comment on fait pour expliquer aux touristes tous les intérêts de l'écotourisme et donc d'un changement d'habitude sans tomber dans une forme de moralisation, voire de culpabilisation ? J'exagère volontairement le terme.
Il faut plutôt les sensibiliser que les faire culpabiliser, je pense. Et c'est par le biais d'actions comme aujourd'hui ou de toutes les actions qui ont été menées sur tout au long du mois d'avril, du mois de mai, pardon, qu'on sensibilise les visiteurs et que petit à petit, on va les responsabiliser dans leurs actes de touristes au quotidien.
Je crois que c'est aussi par l'aspect ludique. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous faites une course comme la Déjantée, ou le swimrun, où vous courez dans l'eau, dans la gadoue, ben vous êtes très sensibilisé à ce que ça reste propre. Vous ne voyez pas du tout la nature de la même manière à l'idée que vous pourriez être en plus au milieu de quelques canettes et papiers gras. Et ce qui est très frappant à Vassivière, c'est que vous avez 40 km de sentiers de rive, il n'y a quasiment pas un papier, il n'y a pas de corbeille non plus, mais les gens le laissent propre. Je veux dire, ce sont des territoires qui attirent aussi une certaine forme de tourisme. Encore une fois, le tourisme purement consommériste, il ne trouve pas... Ça répond pas à ses attentes, je veux dire.
Non, les gens qui viennent ici font vraiment un choix. C'est rarement le hasard qui les fait arriver ici. Donc ils savent à quoi s'attendre et ce sont des gens qui sont déjà sensibles à toutes ces valeurs et qui sont sensibles à tout ce qui est nature.
Après, c'est peut-être plutôt au niveau des commerçants qu'il faut qu'on travaille pour que toute la restauration soit beaucoup plus en circuit court, pour qu'on valorise plus l'artisanat, la création, et pas seulement les métiers d'art, mais aussi la création autour, pour que les pratiques commerciales, depuis l'huile des frites, en passant par le tri des poubelles et le compost, soient beaucoup plus à la hauteur. Mais ça, c'est aussi une stratégie globale du PNR sur l'ensemble du territoire.
Vous me facilitez la transition. On parlait de gens qui viennent sur le territoire, des touristes. On pourrait parler des gens qui vivent sur le territoire. Comment on implique ces gens qui sont à la fois les agriculteurs, les artisans, les hébergeurs, les commerçants ou tout simplement les simples habitants ? Comment on les implique dans cette nouvelle façon d'envisager le tourisme ?
Alors, il y a des niveaux d'implication différents. On a des partenariats avec les agriculteurs, par exemple, sur l'entretien des espaces naturels, pour leur mettre à disposition des pâtures ou pour avoir partagé un berger pour pouvoir nettoyer tous les espaces naturels avec les moutons. Il y a bien évidemment des partenariats avec tout ce qui tourne autour de la restauration. Mais aussi, on est en train de discuter avec certaines coopératives pour voir si, par exemple, les gens qui viennent en vacances, ils font des barbecues, on pourrait servir de dépôt-vente à la boutique pour de la livraison de sachets de saucisses sous vide une fois par semaine. Organiser des circuits courts accessibles aux touristes. Et puis, il y a aussi le fait de faire comprendre aux gens qui vivent localement qu'ils ont quelque chose à transmettre aux touristes. Ce n'est pas deux mondes qui doivent se regarder en chien de faïence avec les touristes à certains moments et puis les habitants repliés derrière leur barrière en disant « les touristes, ils me dérangent ». Mais comment est-ce qu'ils viennent à la rencontre des touristes ? Comment leurs activités habituelles peuvent devenir aussi accessibles aux touristes ? Par exemple, on est en train de travailler sur les problématiques autour de l'esthétique, des massages, des soins. Voilà, ça, c'est des activités à destination de la population qui vit sur place. Mais on peut peut-être en faire aussi quelque chose pour les touristes. Je rêve de séances de yoga levée de soleil sur les plages de Vassivière.
Alors, il existe une troisième catégorie. On vient de parler des touristes, des acteurs locaux du tourisme et des habitants. Il y a aussi les saisonniers. Quelle place, quel rôle pour les saisonniers ?
Alors pour l'essentiel, les saisonniers sont des gens du coin, avec lesquels on essaye de recruter en priorité des gens du coin. D'ailleurs, il y en a un certain nombre qui reviennent chaque année. Après, il faut qu'on arrive aussi à pousser les gens du coin à avoir les diplômes dont on a besoin, que ce soit les pilotes de bateaux ou les maîtres nageurs sauveteurs. Ce sont des diplômes qui sont indispensables sur un site lacustre. Et où on a beaucoup de mal à trouver des candidats localement, alors que c'est beaucoup plus facile pour l'accueil, l'entretien, que ce soit des hébergements ou des espaces naturels.
Est-ce que l'écotourisme, ça a un impact sur le portefeuille des touristes et des acteurs du tourisme ?
On estime les retombées à 13 millions d'euros annuels. Ça, c'est les chiffres donnés par les organismes homologués sur les retombées financières. Donc vous divisez par 3500 habitants, ça fait quand même plus de 4000 euros par an et par habitant. C'est énorme comme retombée.
Et ma question, c'était aussi de savoir si l'écotourisme est entre guillemets plus cher que le tourisme classique.
Je pense qu'une des particularités de l'écotourisme, c'est qu'il ne raisonne pas en termes de fric. C'est un autre rapport au tourisme. Il a besoin de pouvoir financer ses équipements, ses hébergements, ses animations. Mais ce n'est pas son enjeu principal. Son enjeu principal, c'est de partager et de faire découvrir.
Alors, je vais vous poser une dernière question, une avant-dernière question en guise de conclusion, une question un peu délicate. Comment on fait pour trouver l'équilibre pour développer l'écotourisme sur un territoire, donc pour le rendre attractif, sans qu'il ne soit trop attractif et que ça ne nuise finalement au projet initial ?
Alors, si je vous réponds par une boutade, je dis c'est très simple, vous améliorez pas la voirie. Et donc, de toute façon,
ça, bonne...
on peut pas accéder. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on est en train de travailler sur un site tout au long de l'année. Parce que l'objectif, c'est pas de faire venir plus de gens sur les deux mois d'été. C'est de faire venir, c'est d'augmenter la fréquentation, mais en la mettant tout au long de l'année et pas uniquement sur deux mois. Après, c'est vrai que cette nature, elle n'a de sens que si c'est pas un embouteillage de 18h30 sur un périphérique, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Ça pose la question de garder la gare des Moutiers-Vassivière. Ça pose la question que le syndicat ait une compétence transport touristique pour organiser des navettes autour du lac, pour qu'on puisse déposer sa voiture et passer des vacances sans reprendre sa voiture ensuite. C'est ce qu'on a commencé déjà avec les bateaux, mais il faut qu'on continue. Ça pose aussi la question d'avoir des loueurs de vélos électriques à des tarifs préférentiels. Et dans nos délires, on est même allé sur le pédalo lime, si vous voulez, où vous prenez un pédalo à un bout du lac et vous le lâchez à l'autre bout et vous pouvez le reprendre au retour.
Le pédalo libre. La saison 2017, la saison estivale 2017 commence, on va le dire. C'est quoi les temps forts de la saison qui arrive ? Et ensuite, c'est quoi la feuille de route du lac à court, moyen et long terme pour développer l'écotourisme ?
Alors les temps forts, je vais vous en dire de mémoire. Donc là, aujourd'hui, la fête de l'écotourisme. Ensuite, au mois de juin, il y a le swim run, les 14 et 15. Ensuite, le dimanche 25 juin, vous avez le tour du lac pédestre. En juillet, août, vous avez la fête de la Saint-Amour,
l'été des Saintes. Tu as des régates tous les week-ends.
Voilà,
aussi,
l'été des Saintes, des régates tous les week-ends. L'été, il y a pas mal de temps forts. Au mois de septembre.
La fête des Cunoirs.
Et l'île aux Cunoirs, les 29 et 30 juillet. Également, au mois de septembre, la Déjantée, la grande brocante de Vassivière.
Voilà. On aura les hydravions de Biscarrosse qui vont venir amerrir sur le lac le 29 août. Qui vont venir passer une journée, faire des baptêmes de l'air et dans le cadre d'un tour des lacs. Mais on vous réinvitera.
Ouais, oui,
il y a encore beaucoup de temps fort à venir jusqu'à la fin du mois de septembre.